Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un road trip que j'ai fait il y a un petit peu de temps, mais comme mon camarade du nouvel automobiliste a réessayé la nouvelle 320D, ça m'a fait dire qu'il fallait absolument que je publie cet article. Donc, je vais vous parler d'un trip en BMW 420D Grand Coupé et j'ai eu l'occasion à un moment d'essayer une Alfa Romeo Giulia diesel 190 chevaux propulsion, donc qui est le concurrent direct. Et donc, c'est à la fois un road trip et un peu un essai comparatif. Donc, l'essai du facelift de la BM Série 3 en version 320D 2023 m'a donné l'idée et l'envie de vous raconter mon essai au long cours de cette 420D l'été dernier. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Nouvel Automobiliste pour aller regarder l'essai de Christian de la nouvelle 320D. Et là, je vais vous raconter quel a été le point de départ un peu de mon essai de la 420D. Un coup de fil au responsable communication de BMW, Pierre-Alexandre. Je descends à Monaco pour couvrir Top Marque et je voudrais te prendre une auto. Réponse de l'intéressé, j'ai tout ce que tu veux, électrique, M3, M4, M8. Précision utile, si je descends pour le travail à Monaco, j'en profite aussi pour m'arrêter à Valence, fêter l'anniversaire d'un ami et terminer la descente sur la côte via la route Napoléon. Donc un essai, oui, mais sans avoir à réfléchir ou à planifier, ce qui exclut de facto l'électrique. Je suis raisonnable et il y a près de 2000 km à faire. Alors, pourquoi pas avec une voiture adaptée au long trajet et donc diesel. Et oui, BMW continue à fabriquer, développer des diesels très performants. Je me décide avec mon camarade sur une 420D Grand Coupé, déjà essayée par le nouvel automobiliste, sur une plus courte distance. Et de toute façon, l'important, c'est de justement comparer un peu les points de vue, l'essai un peu plus court et puis l'essai au long cours. Quand on n'est que deux à voyager, une série 4 Grand Coupé, c'est idéal. Un espace dans le coffre suffisant, une banquette arrière accessible via les portes pour jeter de menus affaires. Et pour te dire, au moment de mettre les bagages, je me rends même compte que j'avais oublié qu'il y avait deux portes arrière, tant elles sont discrètes dans le design latéral de la voiture. Seul défaut de la forme Grand Coupé, une visibilité arrière un peu réduite. Et si le haillon est grand et s'ouvre largement, il y a une contrepartie. Dans les parkings souterrains, il a tendance un peu à taper contre le plafond quand il est ouvert au maximum. Pas de période de rodage, la voiture juste récupérée, je pars le jour même pour Valence avec un trajet uniquement constitué d'autoroute. En revanche, petit étonnement, en récupérant la voiture, lors des démarrages à froid, le 2 litres injection directe est un peu bruyant, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dès qu'il est chaud, il le sera beaucoup moins, il se fera même oublier. Il y a un peu de trafic, je ne suis pas pressé, donc pas grand-chose à signaler, à part une consommation ridicule et un moteur qui devient discret dès que l'on est sur autoroute, justement. Seule ombre au tableau, au bout d'une heure, je gigote sur mon siège. Les sièges sport de chez BMW sont vraiment sport. Et puis, je suis content au volant, je peux mettre le coude à la portière. En effet, comme beaucoup de gens, j'aime bien pouvoir me caler le bras sur la coudoir de porte pendant le long trajet, et là, ça fonctionne avec la 420D. La qualité perçue globale est impeccable, mais je suis déçu par la qualité du matériau qui recouvre la planche de bord. Du semi-liquide agrémenté de couture. Le rendu est moyen, tant en termes de toucher que de look. Même la grille de haut-parleur située au-dessus de la planche de bord est en plastique et ne fait pas tout à fait premium. Cela fait partie des modifications de la nouvelle série 3, série 4, qui fait un petit peu améliorer par rapport à notre version d'essai. Donc, vous l'avez compris, notre sellerie n'est ni en tissu ni en cuir. C'est du 6 mm qui permet de se faire plaisir avec un intérieur de couleurs différentes, avec l'aspect du cuir, pour un tarif, il faut le reconnaître, très contenu, de 400€. Par contre, dès le début, je me débat avec la gestion du téléphone et de la connexion en Apple CarPlay. Si je mets en charge mon téléphone sur l'emplacement induction, alors que je l'ai connecté pour avoir la navigation, il chauffe. Et si je le mets dans la boîte à gants réfrigérée, il ne se connecte plus en Bluetooth. La seule solution, me connecter en filaire à l'ancienne, ce qui ne m'empêchera pas d'avoir des déconnexions intempestives. Je retrouve malheureusement l'alerte au franchissement en ligne qui se remet en route à chaque redémarrage. Sur petite route, impossible de couper les virages à un temps soit peu. Et contrairement à une EX par exemple, il faut rentrer dans le menu pour enlever cette béquille. Il n'y a pas de bouton pour l'enlever en direct. Dernier point, même s'il est positionné trop en arrière, comme sur toutes les voitures modernes, le toit ouvrant assure une luminosité très agréable au long cours. Au milieu de notre périple, c'est bien par hasard que j'ai eu l'opportunité de conduire une Giulia à la définition très proche de notre 4 Vendée. Notre italienne a la même puissance, ou presque. C'est une propulsion avec une définition pneumatique plus raisonnable que la BMW. Première surprise, côté moteur, je dois reconnaître que mes a priori ont été balayés. Je m'attendais à un moteur Alfa Romeo diesel rugueux et camionnesque face à un moteur de BMW chantant et dynamique. C'est presque l'inverse. Je reviendrai sur le BMW, mais le 4 cylindres de la Giulia m'a bluffé. Plein dès le plus bas régime, il prend des tours sans râler et il sait chanter. Oui, il chante, on est loin du claquement de certains diesels à l'ancienne. Dès qu'il est chaud, on se surprend à lui tirer dessus pour attaquer sur les petites routes. Et c'est là que j'ai pris le plus de plaisir, sur les petites routes. La Giulia a vraiment un châssis de rêve, la vitesse de passage est élevée, mais en cherchant la limite, la progressivité est exemplaire. Le toucher de la direction assistée est parfait, et mine de rien, le petit volant à l'épaisseur réduite par rapport à la BMW fait penser à des autos plus anciennes. Des souvenirs pleins de plaisir. En tenue de route, l'Alfa avec ses roues en 18 pouces est plus progressive et glisse plus. La 4 Vendée, avec le pack M que nous avons, est rivée à la route. Elle est toujours rassurante en utilisation classique, mais à entre guillemets l'attaque, c'est un petit peu plus difficile de sentir la limite. Et n'oublions pas que c'est notre version est une 4 roues motrices. Au final, on est confronté à deux façons d'être sportive. Sérieuse, plus rigide et moins passionnelle, c'est la façon de faire de la BMW. L'Alfa est, elle, en plein dans son positionnement, la passion, mais cette fois-ci sans que cela soit au détriment d'une certaine rigueur. Autre point à signaler, comme j'ai pu le dire, j'ai trouvé les sièges ports de la 4 Vendée trop durs. Du côté italien, moins de soucis. On glisse certes un peu dans son siège, mais instinctivement, on se rapproche du volant et en attaque un peu plus pour faire corps avec la machine. Décidément, c'est bien dommage qu'Alfa ne vende pas plus de Giulia. Côté tarif, même si l'italienne n'est pas donnée, si on rajoute les options qu'il faut à la BMW, l'écart se creuse de façon abyssale. Et même avec une valeur résiduelle bien meilleure pour la bavaroise, comme d'habitude, je ne suis pas sûr que l'on retrouve l'argent mis dans les options à la revente. Mais revenons à nos moutons. Après mon arrêt à Valence, c'est le moment d'attaquer le cœur de notre périple, remonter quelques kilomètres au sud de Grenoble et attraper la route Napoléon. Comme je suis toujours un peu dubitatif, je dois reconnaître que deux points me paraissent incompatibles entre la 4 Vendée et la route Napoléon. Que notre auto soit une X-Drive, donc une 4 roues motrices, et qu'elle ait un diesel avec une puissance un peu limitée, eh bien, je vais avoir tort et un tout petit peu raison. Les petites routes de l'arrière-pays entre Grenoble et Nice permettent de rouler assez dynamique. Il y a certes des grands bouts droits où l'on pourrait rouler très vite. Mais est-ce utile? Passionnant? Non. C'est pour cela que je vais profiter du couple du 2 litres diesel et enrouler, histoire de soigner ma consommation. Mais en fait, pas si utile que ça, déjà la consommation restera de toute façon très basse. Et puis dans les parties sinueuses, je le reconnais, je vais me laisser aller à prendre un peu du rythme et profiter enfin des sièges sport qui alors deviennent indispensables. La puissance n'est pas diabolique et dès que l'on enlève l'électronique, on sent bien que les roues avant compensent, et oui, c'est une 4 roues motrices, et font que cela ne glisse quasiment pas. Et quand vous commencez à dériver, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 190 chevaux. Alors, on repasse juste en sport et on profite de la route pour oublier même que les roues avant sont motrices. Bravo à BM d'avoir su préserver un toucher sportif, je trouve, au mode X-Drive. Par contre, à ce rythme, à la fin des passages les plus sportif, j'ai la surprise de constater d'un coup d'œil que mes pneus avant ont un petit peu souffert. L'extérieur des Michelin Pilot Sport en ont pris un petit coup, sans que je n'ai eu l'impression de les brutaliser. C'est vraiment le châssis qui travaille et qui ne force pas, mais qui utilise ses pneus. Et tout cela, avec quelle consommation me direz-vous? Eh bien c'est bluffant. 8,5 litres de gasoil, je vous, avec beaucoup de relance, beaucoup d'exploitation du véhicule. Après ces kilomètres sur la route Napoléon, le plus beau compliment que l'on peut faire à la BMW et à ses qualités dynamiques est de trouver qu'elle n'a pas assez de puissance. On roule sur le couple et même en tirant un peu les régimes, la vitesse de passage est conséquente sans jamais avoir l'impression d'être à la limite ou en insécurité. Tout est sous contrôle, le plaisir et la sérénité sont là. Voilà peut-être ce qui traduit le mieux cette première partie de voyage, la sérénité. Seul détail avec lequel il faut composer, les sièges ports idéaux pour attaquer m'a pas toujours confort sur les longues étapes. Mais preuve que l'on s'habitue à tout, à l'issue de ma dernière étape autoroutière, même fatigué, je ne serai plus gêné par cet aspect-là. Salon fait, il est 19h et nous devons remonter sur Paris. Je serais bien resté dans le sud, mais il faut rentrer travailler. C'est donc le moment pour moi d'ouvrir l'application ABPR de planification de trajet destiné aux voitures électriques pour voir où je dois m'arrêter et combien de temps je dois prévoir pour recharger. Ah, vous avez compris, je me moque. Nous faisons un arrêt sandwich au départ et le plein du réservoir de l'ABM juste après avoir quitté Monaco. Et puis, eh bien, on rentre d'une traite. C'est certes un peu fatigant de faire le trajet sans s'arrêter et seul au volant, mais ça le fera. Je trouverai même les sièges ports moins exigeants pour mon dos que lors du trajet aller. Ici, point de record de vitesse. Tout le trajet se fera au régulateur pour maximiser la vitesse moyenne et éviter même de mettre le coyote et de se faire piéger par un radar inutilement. On enroule sur le couple du moteur diesel. La climatisation ronronne avec un filet de musique pour se laisser bercer. Juste envie que le monde s'arrête de profiter de ce moment de plénitude. Et que c'est bon de ne pas avoir à se soucier de recharger une batterie en cours de route ou en arrivant à destination. Au total, j'aurais consommé 137 litres de gasoil pour réaliser 2220 km de parcours. Ce qui nous amène à une consommation moyenne de 6,17 litres de gasoil où nous avons réellement exploité la voiture dans bien des cas. Côté tarif, si on se limite au prix de base, la 420D peut paraître compétitive. Par contre, dès que l'on commence à rajouter quelques options indispensables, telles que le toit ouvrant ou la sellerie semi-liquide, la note s'envole vers des niveaux assez délirants, c'est un peu dommage, mais c'est la contrepartie de BMW. En conclusion, BMW sait encore et toujours faire des autos pour voyager au long cours. Côté look, quand on choisit un coloris intérieur et extérieur avec goût, on oublie la calandre qui nous a un peu choqués au début et auquel on s'habitue malgré tout. Mais pour moi, le point central est de pouvoir rouler et rouler encore sans se poser de questions. Et oui, l'automobile doit être un outil de liberté. La BMW 420D en est un, mélangeant avec adresse passion à la BMW et sérieux d'un véhicule pour voyager au bout du monde.